les salles obscures, avec un métier que personne ne connaît vraiment, tout en bénéficiant. Programmateur et programmatrice cinéma, Meriem Rabhi, bonjour.
Salut Robin.
Donc Meriem, tu es très occupée, tu fais beaucoup de choses et parmi les choses qui t'occupent, tu es programmatrice cinéma. On va revenir plus en détail sur en quoi ça consiste puisque comme je le disais, tout le monde va au cinéma, beaucoup de gens vont au cinéma, les programmateurs et les programmatrices sont directement responsables des films qu'on peut voir en salle et pourtant, je crois pouvoir dire que plein de gens ne connaissent pas en quoi consiste ce métier. Donc, on va en parler de façon extensive. Tout d'abord, pour commencer peut-être par le commencement, est-ce que toi, tu as été à l'origine, est-ce que tu as toujours été une fan de cinéma ? À quel moment est-ce que tu as su que ça prendrait une telle place dans ta vie ?
Alors, comme beaucoup de personnes, nées... à la fin des années 80 ou ayant grandi dans les années 90, effectivement, je suis quand même une grande consommatrice de films, de cinéma aussi, puisque évidemment, il y a deux choses, puisque les années 90, il y a les vidéoclubs, il y a tout ça qui se démocratise. Donc, regarder des films est une pratique qui est individuelle et il y a aussi le moment où, en fait, on commence à aller au cinéma tout seul et ça fait plaisir, on choisit ses propres films, on va plus seulement avec les parents. Moi, je sais que ça a été très vite quelque chose... ça a été individuel, puisqu'en fait, mon père avait une énorme collection de cassettes.
Pratique.
Donc, avec le magnétoscope et tout, vraiment trop bien rodé. Et où on avait évidemment plein de cassettes avec écrit à la main les titres de films. Et c'est comme ça que moi, j'ai surtout eu une approche cinéma, on va dire, ou plutôt des films, qui après m'a donné envie d'aller découvrir tout ça en salle.
Dès le début, ce que tu dis, je pense que c'est important pour les gens de cette génération-là, il y a cet aspect aussi peut-être compulsif et assez pléthorique, c'est-à-dire justement, ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire que la démocratisation, alors à l'époque, évidemment, il n'y avait pas Netflix et consorts, mais avec le magnétoscope, déjà, c'était un peu la boîte de Pandore qui s'ouvrait, c'est-à-dire que d'emblée, tu n'étais pas tributaire des films qui passaient au cinéma, mais tu pouvais enregistrer tout ce qui passait à la télé.
C'est ça, et pouvoir les regarder, c'est-à-dire moi ça m'arrivait très souvent en fait de regarder un film et en fait je le rembobinais, puis des fois je le regardais de nouveau, parce que je sais pas, pour le plaisir.
Jusqu'à ce que la cassette soit...
Exactement, ça pouvait s'abîmer, effectivement, après ça a duré quand même un moment, mais oui, il y avait beaucoup cette pratique en fait, où on pouvait faire ça, on va dire, oui voilà, on n'était pas... Donc en fait ça a fait que j'ai pu avoir accès, comme mon père était très fan de films, à avoir accès à des anciens films aussi, à avoir accès à un ancien cinéma. Il y avait aussi le câble. Alors moi, je fais partie d'une famille qui a eu la chance d'avoir le câble. Et donc, on avait beaucoup plus de chaînes, donc avec beaucoup de cinéma aussi, de patrimoine qu'on allait retrouver justement sur des chaînes qui allaient montrer des films des années 50.
Oui, c'est parce que...
Et c'est vrai que moi, je mangeais un peu de tout.
Oui, il y avait des chaînes qui étaient même... Alors, ça existe maintenant, mais c'est plus... ça a été remplacé progressivement par les plateformes, mais il y avait des chaînes qui ne diffusaient que du cinéma de patrimoine. Je pense à des films, à des chaînes notamment comme TCM. Il y avait aussi plusieurs chaînes dans le groupe Canal
ou
même TPS
à
l'époque.
Ciné classique.
Exactement.
Ouais.
C'était que des films en noir et blanc ou des vieux films.
Voilà. En fait, il suffisait de juste passer entre toutes ces chaînes qui d'ailleurs se suivaient. Et puis en fait, on pouvait tomber sur un film en cours. Moi, j'ai vu plein de films comme ça. Je savais même pas ce que c'était.
Et justement, j'allais te demander au-delà de parce que quand tu découvres énormément de films comme ça, tu peux passer d'un à l'autre. Est-ce que tu as des chocs de cette époque-là qui te sont restés un peu gravés dans la mémoire, des images rémanentes, des choses comme ça ?
Alors, le film qui a été très important dans mon enfance, ça a été Star Wars, puisque mon père était un grand fan. Je me rappelle encore quand on était arrivé au supermarché et qu'il y avait il y avait un énorme endroit où il y avait toutes les VHS qui venaient de ressortir. Alors, c'était une ressortie de
17, il me semble.
97 ? Ah oui, juste avant qu'il annonçait déjà qu'en 80...
Enfin, alors, de mémoire, La Menace Fantôme est sortie en 99. Et deux ou trois ans avant, il a remasterisé. Il a modifié des plans.
Alors, qui étaient ressortis au cinéma, il me semble. Ouais.
Ah, je ne sais plus exactement, je ne suis pas expert. Mais oui, en tout cas, il me semble qu'il l'avait ressorti en VHS. Et il y avait des plans, des effets spéciaux un peu kitsch dont il n'était pas tout à fait fier, qu'il avait remis sur le métier.
Exactement, ouais, sur les VHS que moi j'ai pas, on va dire, la vraie version. Mais par contre, j'ai une super version, puisque c'est quand même encore quand il y a la VF. Avec Harrison Ford qui dit le Millennium Condor au lieu lieu du Falcon Millennium.
Les Z6PO.
C'est Harrison Ford, enfin c'est Han Solo qui a tiré le premier. Enfin, j'ai encore ces versions-là.
Ça, c'est la version. Oui, voilà. C'est vrai que depuis, ça a été censuré et c'est plus Han qui tire en premier. Donc ça, c'est un film qui t'a marqué et t'es tombé dedans.
Je pense que ça, oui, parce qu'il y a tout en fait dans ce film. C'est-à-dire il y a l'aspect, en plus il y a un côté sériel, c'est-à-dire il y a plusieurs films, donc on peut regarder vraiment beaucoup d'heures de films finalement et on est toujours dans le même univers. Il y a une super musique, il se passe beaucoup de choses et je pense qu'effectivement en tant que jeune personne, on est très stimulé. Ça ouvre. En fait, c'est-à-dire qu'en plus George Lucas se trouve à un endroit avec ce film. En tout cas, moi c'est mon avis. Il y a beaucoup de gens qui le partagent. Qui est à l'endroit un peu paradoxal avec Star Wars, puisque c'est à la fois un cinéma d'auteur, c'est-à-dire il a fait ce qu'il voulait, comme il l'a voulu, et en même temps c'est le film qui va marquer la fin du nouvel Hollywood, justement de ce cinéma d'auteur où finalement, il y a d'autres films qui l'avaient un peu précédé, mais qui va faire que Hollywood va arrêter de financer un petit peu... À la One Again,
et la naissance des blockbusters,
c'est la naissance plutôt financer des blockbusters.
Oui, parce que bien assez rapidement, les producteurs s'en rendent compte qu'en termes de retour sur investissement, c'est beaucoup plus intéressant de financer des choses un peu plus sûres. Et c'est vrai que l'aspect franchise qui ne cesse de gagner en importance depuis 50 ans, c'est là que ça débute aussi, puisqu'il y avait eu quelques années avant Coppola qui était le mentor de Lucas, il avait fait le Parrain 2, mais c'était moins sérialisé comme tu le disais. Et c'est vrai que l'aspect cinéma d'auteur que tu soulignais, c'est présent, puisque c'est même marqué des valeurs et même des idéaux de la contre-culture de l'époque, puisque il y en a beaucoup qui ont vu dans les combats qu'il y avait entre les rebelles et l'Empire une relecture un peu dans l'espace de la guerre du Vietnam. Donc c'est vrai que la première trilogie, particulièrement le premier film, tu sens que c'est encore très imprégné de ça.
C'est que je pense que George Lucas a grandi dans cette époque, il était dans une fac de cinéma, donc plutôt imprégné avec ses idées, on va dire, progressistes et libérales. Et en fait, ça se retrouve dans ses films, même si lui s'est avéré quelqu'un qui m'ait gardé le contrôle et avait malheureusement des idées plus...
On connaît la suite.
Voilà.
Et donc, au-delà de ça, justement, est-ce que quand tu as... de façon au-delà de ton cas personnel, le métier de programmateur et de programmatrice cinéma, avant qu'on y vienne de façon un peu plus concrète, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une voie un petit peu royale, une voie tout indiquée si on veut faire ces études-là, ou est-ce que il y a des gens qui passent par la FEMIS, par des filières un peu comme ça, c'est...
Alors, moi, je viens plutôt de chemin de traverse.
Okay.
Donc, je pense qu'effectivement, si on fait des grandes écoles cinéma et qui permettent de créer un réseau et qu'on se crée une réputation, en tout cas, où on peut faire des choix en travaillant soit dans des boîtes de prod ou de distribution, je pense que ça peut amener plutôt... On peut arriver très facilement à ce métier. Après, moi, les personnes avec qui je travaille et qui font de la programmation aussi, on vient quand même... Bon, il y a toujours ce cinéma. Globalement, je suis quand même plutôt entourée de personnes qui ont fait des études supérieures et plutôt orientées art, cinéma, enfin voilà.
Culture au sens large,
culture,
on pourrait dire.
Culture, voilà, esthétique aussi.
Avec l'aspect de
mais on est plusieurs à avoir fait des choses très différentes. Et des masters cinéma, moi je viens des Beaux-Arts à la base. En fait, justement, moi je venais pas vraiment du cinéma. Moi, c'est en commençant à travailler au Vidéodrome 2 que j'ai pu commencer à avoir l'action de gestes de programmation.
Justement, toi, est-ce que il y a aussi beaucoup de gens qui viennent des ciné-clubs, puisqu'il y en a à Paris, il y en a beaucoup des ciné-clubs à Paris. Je sais qu'il y en a beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de cinémas de quartier. Ça, c'est quelque chose aussi qui est assez présent, qui permet de mettre un peu le pied à l'étrier, de voir comment où on apprend à voir. Alors, j'allais parler de projectionnistes. Maintenant, des projectionnistes, il y en a de moins en moins, puisque il y a plus qu'à appuyer sur le bouton play. Mais
et en plus, le dernier CAP vient de fermer.
Ah, je ne savais pas, tu me l'apprends. Donc, un métier en voie de disparition. Donc oui, l'aspect, c'est quelque chose aussi qui est assez marqué par l'aspect ciné-club et qui est présent dans le tissu associatif, on pourrait dire.
Je pense que oui. ça a toujours un peu, je pense, existé en, les deux en parallèle, c'est-à-dire un côté plus professionnel, avec des salles d'exploitation. Et puis, il y a eu à côté, je pense, le Ciné-Club, il est là aussi, justement, dans cette envie de montrer des films. Parce que je pense que c'est ça qui anime n'importe quel programmateuriste de cinéma. En fait, c'est que je pense que c'est l'envie de valoriser, c'est l'envie de montrer, de faire découvrir, soit des films dits de patrimoine, du coup, qui datent de plus de 10 ans ou de plus de 5 ans. Et ou alors on a aussi, ou alors l'envie de valoriser un nouveau cinéma. Alors ça va plutôt être un travail de festival,
de défrichage,
voilà.
Ouais.
Et ou de retrouver, oui, des fois, oui, des vieilles copies.
Oui, oui, même des films.
C'est vraiment un travail de valorisation, soit de films anciens, soit de films qui viennent de sortir.
Mais pour ce qui est des films anciens, c'est même quasiment un travail d'archéologue du cinéma. C'est-à-dire que tu peux vraiment... Il y a même des cas assez célèbres de films qui ont été qu'on considérait comme étant soit perdus, soit mutilés par les studios qui les avaient produits. Et on a retrouvé des bobines. Mais il y a des histoires assez folles. On a retrouvé des bobines parfois quasiment dans une poubelle et on les a réhabilitées. Donc ça peut être ça aussi le rôle de la personne qui est en charge de la programmation.
C'est ça, ça. Je pense que ça, c'est cette envie de... Alors, il y a beaucoup de réalisateurs qui s'y attellent aussi, de réalisatrices qui vont même s'y atteler, puisque, par exemple, on va avoir la Film Foundation de Martin Scorsese, ouais, qui va aider, par exemple, en travaillant avec la Cinémathèque de Bologne à restaurer des films. Là, comme ça, je pense aussi à un film très court qui a été fait par... Wong Kar-wai, justement, de vieilles bobines de films qui avaient été faits à Hollywood, mais de personnes asiatiques, et où, en fait, du coup, il a juste fait un petit montage musical, mm-hmm, de toutes ces bobines. Bon, c'est très joli, c'est très beau. Enfin, du coup, ça fait ressortir l'aspect plastique aussi de la pellicule. Et en même temps, ça nous évoque un peu tous ces films... On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est des certaines, ça se voit un peu que c'est des vidéos d'essai, mais d'autres, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est un film qui a été juste jeté, qui a commencé, puis finalement, on ne l'a pas continué. Enfin, quand on connaît, par exemple, la place des minorités dans le cinéma.
Bien
donc,
sûr, ouais.
Donc, effectivement, ça venir là. La dernière fois qu'on s'était vu, du coup, on avait aussi évoqué donc le film L'échiquier du vent. Le film iranien,
ouais,
qui n'avait été projeté qu'une fois, puis interdit, puis finalement, puis perdu, et un jour, par hasard, quelqu'un le retrouve chez un antiquitaire qui accepte de restituer la bobine. Et d'ailleurs, je crois que la Film Foundation avait aidé à la restauration.
Oui, maintenant, en plus, il est visible dans une qualité, dans une copie assez stellaire. J'ai eu la chance de le voir au cinéma.
Quand il est ressorti l'année dernière, moi, ça a été c'est un beau film.
Exactement. Et puis, c'est surtout, tu prends c'est un très bon exemple, L'échiquier du vent. C'est aussi, et c'est là, je pense, que peut être aussi l'apport des programmateurs, des programmatrices. C'est-à-dire que ça peut être une fenêtre ouverte sur des cinémas et des époques qu'on ne connaît pas. C'est vrai que quand tu prends de mémoire, c'est un film qui date de la fin des années 70, L'échiquier du vent, et tu vois ça montre bien, puisque c'est quand même un film qui est inscrit dans son époque, et tu comprends aussi en filigrane les raisons sociétales et même politiques qui derrière la quasi disparition ou la mise sous silence de ce film.
C'est ça, puisque le film va décrire une société qui s'effondre par le biais d'un intérieur domestique. Ça c'est aussi une obsession que j'ai avec mes films.
On y reviendra.
J'aime beaucoup voir les maisons qui s'effondrent sur elles-mêmes et qui sont finalement des sociétés en fait qui ont du mal à...
La maison et le monde, pour reprendre le titre d'un film de Satyajit Ray.
Ah oui, je ne l'ai pas vu celui-là. J'aimerais beaucoup.
Il est très bien. Ça m'inspire. Je relis ça à ce que tu dis. Effectivement.
Par exemple, je pense là, par exemple, au travail aussi de Annabelle Ventura, qui est du coup qui a travaillé sur la valorisation et la restauration de plusieurs films, et du coup qui a fait toute une tournée aussi. Il a été projeté du coup au Vidéodrome 2, mais qui a été de films du cinéaste Medondo.
Mm-hmm.
Cinéaste mauricien qui est très connu pour son travail de doublage en France.
Eddie Murphy notamment.
Voilà, notamment Eddie Murphy qui a été l'acteur de doublage de Eddie Murphy, mais qui est aussi un très grand cinéaste, notamment des années 60, 70, 80, qui est dans une lignée communiste. Enfin, c'est très intéressant de voir les films aujourd'hui, mmh. puisque on est vraiment dans un langage très libéré en fait de lutte de classe.
Bien sûr.
Et de lutte aussi du tiers-monde. C'est très revendiqué par le cinéaste. Des pays du Sud et donc du coup elle a un travail très intéressant aussi puisqu'elle écrit enfin voilà en fait c'est ça que je voulais dire par il y a plusieurs personnes finalement qui s'inscrivent un petit peu en tant que programmateur programmatrice de manière très différente
oui, bien sûr, oui.
Et par exemple on a une chercheuse qui va rédiger qui va aussi faire dans ce travail archéologique dans ce travail d'archives puisque c'est un travail d'archives va aussi s'inscrire dans un travail de gestes de programmation et valoriser donc des patrimoines qu'on connaît peu par exemple en France où c'est vrai. Quand je dis ça, c'est parce que c'est vraiment en France, c'est-à-dire vraiment l'international, il avait un rayonnement, ce cinéma.
Mendondo, oui, notamment oui. Ces films Soleil Haut ou Lumière Noire qui avaient été beaucoup plus... Et maintenant, justement, lui, il est mort début 2020, de mémoire. Et justement, c'est des films qui sont de plus en plus visibles. C'est-à-dire que de y a peu, j'étais de passage à Toulouse et la Cinémathèque de Toulouse fait un cycle, mm-hmm. Mendondo. Il y a une redécouverte aussi... et c'est vrai que ce que tu disais à l'instant, et on parlait, ça m'inspire, c'est vrai qu'on parlait avant de l'aspect associatif Ciné-Club, c'est vrai que cette redécouverte d'un certain patrimoine peut se faire via des associations ou justement des lieux spécialisés comme des cinémathèques, c'est aussi parce que, ou même des médiathèques, c'est aussi parce que je pense qu'il y a peut-être, ce sont des lieux qui sont moins soumis aux aléas des modes et des marchés, donc il y a peut-être moins la logique de rendement immédiat. Et de faire du chiffre.
Alors, et il y a aussi pas forcément la nécessité de payer des droits, mmh. Parce que des fois ça peut monter assez haut, notamment quand ce sont des films rénovés qui ont coûté de l'argent en termes de rénovation. Des fois, ce sont même des associations qui s'occupent de ça et qui du coup ont besoin quand même d'avoir un petit retour sur investissement, mmh. pas pour se faire d'ailleurs du profit, hein, vraiment juste pour pouvoir
rentrer dans leurs frais.
Voilà le travail fait. Et alors après, il y a les médiathèques qui vont être des institutions plutôt publiques. Et puis c'est vrai qu'après, il y a les ciné-clubs où là, ça peut se faire à plus petit comité, mm-hmm. du moment qu'on trouve une salle. Mais effectivement, les ciné-clubs, je pense que c'est important que tu les soulignes puisque c'est pour moi, c'est le... Oui, c'est un peu comme ça où n'importe qui peut commencer à faire de la programmation. C'est-à-dire, c'est d'avoir envie d'avoir des films en tête, de vouloir les partager avec plusieurs personnes, justement, de ne pas être dans... Et puis, de peut-être mettre un cadre un petit peu plus propice à la discussion, soit précédant le film, même si parfois c'est un peu mieux après, puisqu'en fait on sait de quoi on parle.
Oui, puisque c'est vrai que c'est ce que ça rejoint ce que tu disais à l'instant, notamment concernant l'échiquier du vent, puisque je pense que c'est le travail de beaucoup de on parlait de la notion d'archéologie, c'est aussi, il y a l'aspect mise en valeur peut-être, y compris sur tout le travail technique qui est fait pour restaurer ces copies-là, et aussi mise en contexte, c'est-à-dire, tu vois, tu parlais à l'instant du contexte qui est très précis des films, d'un film comme l'échiquier du vent ou des films réalisés par Mendondo, donc je pense que ça va être aussi... des lieux où auront lieu des débats, des discussions animées autour des films, au-delà de leur projection en tant que telle. Et alors justement, on parlait jusqu'ici on parlait de choses un petit peu générales. On parlait tu parlais des ciné-clubs. C'est vrai que les ciné-clubs, c'est très important puisque c'est des lieux qui vivent et qui sont animés par des amateurs, mais au sens premier du terme, c'est-à-dire des gens qui aiment ce qu'ils font. Et alors, justement, au-delà de de cet aspect un petit peu général, toi, plus précisément, comment tu y es venu, puisque tu parlais de la maison et le monde, l'intérieur domestique comme métaphore du monde qui s'écroule. Très bon sujet de thèse. ce n'est donc pas un hasard si les ciné-clubs que tu animes s'appellent, le ciné-club que tu animes s'appelle Des films sous l'escalier. Donc toi, justement, tu parlais du Vidéodrome 2 qui est un lieu à Marseille. Comment tout ça, tu y es venu au-delà des expériences un peu plus amateurs que tu pouvais avoir.
Alors, j'avais commencé un ciné-club quand j'étais aux Beaux-Arts d'Angoulême, qui n'était pas très régulier, j'avais un peu du mal à suivre la cadence. Alors le Vidéodrome 2, c'est en y travaillant. En fait, c'est un lieu que je connaissais, où j'avais été voir quelques films, et puis après j'y ai travaillé. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu, puisqu'en fait au Vidéodrome 2, l'idée c'est que c'est l'équipe qui programme. C'est un travail, c'est d'envisager que la programmation comme un ciné-club justement est collégiale.
C'est collégial.
Elle se fait à plusieurs. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir une place, un créneau, puisque donc des films sous l'escalier est dédié aux films de genre dans une définition très large, parce qu'en fait je me suis vraiment fait plaisir, je suis partie un peu dans tous les sens. Au départ c'était pour parler de films d'horreur, mais finalement j'ai montré des films qui n'en étaient pas du tout. Et c'était plus un plaisir de pouvoir montrer finalement les films que j'aimais, dont j'avais l'impression parfois que les motifs pouvaient un peu se répéter. Et je m'y suis retrouvée vraiment par cette chance en fait, d'y travailler, d'avoir le temps de le faire et surtout d'avoir... avant ça, j'avais fait un master cinéma et ça a été une continuité. Pour moi, c'est-à-dire j'avais un peu plus de mal à maîtriser les concepts théoriques, ou en tout cas à les rendre dans un écrit, parce que j'adorais chercher, mais au moment de rendre, c'était une autre histoire. Et le Des films sous l'escalier est apparu en fait comme un ciné-club, c'est-à-dire un rendez-vous qui m'a permis de beaucoup plus développer en fait ma pensée que j'avais un peu plus de mal à restituer à l'écrit.
Qui dépassait le simple cadre théorique et qui pouvait...
C'est ça, que les deux en fait puissent se répondre. Et puisque moi je suis quand même assez fan d'études culturelles et donc du coup de plutôt analyser sous ce prisme, les films sous ce prisme-là, ce que le master m'a appris, ça a été aussi beaucoup d'y insuffler beaucoup plus d'esthétique.
D'accord.
Et ça est, en tout cas, de plus savoir lire un film, même si je pense que ce qui est intéressant dans les ciné-clubs, à force de voir des films, je pense que les films, on apprend à les analyser rien qu'en les regardant. Je pense que la théorie, ce qu'elle apporte, c'est plutôt des termes, c'est un vocabulaire, soit dédié, soit un vocabulaire, même pour enrichir personnellement son vocabulaire et mieux savoir dire ce qu'on a envie de dire. Et donc, c'est un peu comme ça que moi, je suis rentrée là-dedans.
Et alors, justement, tu disais des films sous l'escalier, l'idée, c'est de mettre le cinéma de genre en avant au sens large. C'est vrai que le cinéma de genre, ça peut être très large, puisque tu parlais, on parlait d'horreur, de films de monstres, ça peut également être le fantastique, la science-fiction, ça peut être plein de choses. Et justement, toi, comment est-ce que tu procèdes ? C'est-à-dire que tu pars d'un thème assez large autour duquel tu pourras relier des films qui, de prime abord, n'ont pas grand-chose à voir entre eux en termes de nationalité, d'époque. Comment est-ce que tu procèdes ?
Alors, au début, je suis partie de l'envie de faire mon rendez-vous de cinéma de genre, à la fois pour parler en fait, que le cinéma d'horreur. Donc, en étant en master, j'ai beaucoup analysé le cinéma du cinéaste Wes Craven. Donc, Scream, Freddy, Les Griffes de la Nuit.
Le sous-sol de la peur.
Voilà, alors il est décédé en 2015, il me semble. Le sous-sol de la peur.
Je savais que People Under the Stairs en anglais, voilà. La référence.
Puisque c'est People Under the Stairs en anglais, donc Les gens sous l'escalier, je trouve que c'est un très beau film et le titre est très beau en anglais, puisque finalement il dit vraiment ça, c'est des gens sous l'escalier qui font peur et finalement c'est pas forcément eux, c'est pas d'eux dont on doit se méfier, c'est plutôt les propriétaires de la maison et les propriétaires tout court d'ailleurs, puisque c'est quand même un film à charge quand même assez sur les marchands de sommeil je m'en rappelle plus comment on dit. Les transactions immobilières, pas très fun. Et donc ce rendez-vous, il était là pour... j'avais un peu l'impression... Moi, je m'y suis retrouvée dans ces personnages monstrueux qui sont mis un peu...
les freaks, on dirait, les freaks, en bon français.
Puis les monstres. Au début du cinéma d'épouvante, il y avait les vampires, les loups-garous, les monstres de Frankenstein. Et puis après, ça a évolué. Et finalement, de se retrouver en fait, dans ces personnages qui vont être plutôt stigmatisés et de se dire peut-être que tout ça, c'est un petit peu plus nuancé et en tout cas d'être dans un rapport presque dans une relation de réconfortante en fait, avec ces films. Moi, il y a des films, je les regarde... Il y a des films de Wes Craven, des slashers, je veux dire, où les personnages crient, hurlent, il y a du sang partout. Et puis... Puis en fait, ça me réconforte parce que je vois des personnages se battre pour leur vie, je vois des personnages essayer ce remède, de traumas familiaux. Bah, bon, ça, c'est très présent dans le cinéma de Craven. Hein. C'est quelqu'un qui analyse énormément la famille comme un miroir de la société. Mmh. Bon, voilà, il y a un peu toujours cette âme très politique hein, qui sont présents. Et moi, j'avais envie un peu de parler de ça en fait dans mon rendez-vous. Et de sortir peut-être un peu du public habituel qu'on peut y retrouver, qui est plutôt masculin, qui est dans un rapport un peu nostalgique aussi, peut-être un peu trop fort de ces films, et du coup qui ne veulent plus y toucher, alors que peut-être les remettre en question, aller les analyser.
De mettre un peu sur un piédestal peut-être.
Voilà, enfin, qui les mettent en statut un peu d'icône et de fétiche, et finalement on ne peut plus trop y toucher, alors que des fois on peut avoir beaucoup de sympathie et d'amour pour un film, je pense, tout en étant très critique.
Oui, oui.
Et le ciné-club, enfin la forme de ciné-club de ce rendez-vous me permettait en fait de faire ce travail-là, c'est-à-dire déjà de parler des films. Voilà, déjà parce que j'adore
c'est
parler
déjà
des
pas
films.
Mal. C'est déjà et un bon programme en soi, c'est voilà. Pas moi qui te contredirais.
Exactement, puis après on les montre, alors là c'est génial, c'est super parce qu'on n'est pas en train juste de parler d'un film puis quelqu'un nous dit « ah bah je regarderai » puis si ça se trouve elle aura pas le temps, et puis voilà c'est normal. Et après de pouvoir en discuter, puisque moi j'attends toujours la fin des séances pour pouvoir après en discuter. Alors il y a quelques personnes, enfin il y a des personnes qui, j'ai des personnes régulières qui viennent régulièrement voir les films, et ça c'est un vrai plaisir de voir d'arriver à fédérer des personnes autour de mon regard. Ça veut dire qu'on a notre, on a un regard quand même qui se rejoint, puisque bah, le cinéma c'est une rencontre, c'est rencontrer des gens, c'est rencontrer des films, et c'est rencontrer des gens dans des films.
Parfois, c'est se rencontrer soi-même, j'oserais même dire.
Exactement, voilà, oui, oui, les films nous rentrent en nous. Enfin, à un moment donné, j'ai commencé mon travail dans ce rendez-vous en parlant beaucoup de comment les films nous marquent et comment nous, on marque les films aussi. Et comment, finalement, le cinéma nous rend mutants.
Mmh. Et c'est vrai que pour rejoindre ce que tu disais, c'est ce qu'il y a de très intéressant dans le cinéma de genre, là encore dans son acception la plus large, c'est que tu parlais des monstres un peu classiques qu'on connaît, que ce soit Frankenstein, Dracula, et c'est vrai que le cinéma de genre, mais je pense que c'est un peu pareil dans la littérature de genre avec la littérature de monstres ou même la littérature policière, a cet avantage entre guillemets de pouvoir aborder des thèmes, j'allais dire des thèmes sérieux, voire graves, sans avoir l'air d'y toucher. Et c'est vrai que si tu prends et dire finalement passer presque en contrebandier des choses beaucoup plus de façon beaucoup plus subtile que quand le propos est amené sur la table de façon plus de façon moins détournée. Et ce que tu disais, que ce soit du cinéma de Craven ou des films plus anciens, ces films là je pense que c'est, on pouvait aussi ces films de monstres, on pouvait aussi les lire comme une métaphore de l'altérité, et pour mal paraphraser Lévi-Strauss, la barbarie est dans l'œil de celui qui croit que la barbarie existe en fait.
Oui, ça a été très présent dans les écrits. Son nom m'échappe, je le connais par cœur, mais c'est un chercheur, un critique américain, enfin états-unien, qui a écrit beaucoup là-dessus sur justement comme les monstres étant comment les films d'horreur finalement mettent en avant des inégalités de société. D'ailleurs, qu'importe la moralité que porte le film, hein, parce que des fois la moralité va plutôt aller pour les dominants, mais de justement en étant dans ce rapport parfois peu subtil. Certains vont l'être plus que d'autres, mais en tout cas, il y a quelque chose. Les films d'horreur, je les trouve très codés. Et c'est tant mieux, puisque finalement, à force de les voir déjà, une fois qu'on a compris le pattern, on a compris le pattern. Et finalement, on peut plus se concentrer sur qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de nous dire. Mmh. Pourquoi est-ce que, quelles sont les variations et qu'est-ce que ces variations Bien vont sûr. Dire finalement de quel est le propos porté par le film. Et effectivement, ça m'ennuie, mais il a écrit beaucoup sur les luttes de classe, comme les films d'horreur, comme étant des films mettant en avant les luttes de classe, notamment aux États-Unis.
Oui, bien sûr. Et en plus, tu parlais de Craven, et il y a beaucoup d'autres cinéastes pour lesquels on peut parler, puisqu'on ne va pas tous les faire, évidemment, mais je pense à des gens comme George Romero, qui était très critique dans ses films de zombies. Enfin, le zombie, là encore, comme métaphore de l'individu décérébré, abruti par la télévision et anesthésié par le consumérisme, ou même plus récemment, on en avait déjà parlé là également, les films de Jordan Peele, ça s'inscrit tout à fait dans cette mouvance également, avec le propos derrière les codes dont tu parlais, qui sont finalement très très clairement définis et dont tu sais auxquels tu sais que tu auras droit quand tu vas voir le film.
Un peu, oui, voilà, où en tout cas, on sait plus ou moins à quoi s'attendre. Ça, c'est vraiment... ce que le postmoderne nous apporte, hein, c'est que bon, finalement, il y a peu de nouveautés. Donc, on est un peu rassuré.
Toutes les histoires ont été racontées.
Voilà, mais, c'est des variations. En même temps, c'est les variations qui comptent. Et c'est vrai que... Bah, alors, moi, Jordan Peele, je suis très, très fan. J'aime beaucoup son cinéma. J'aime beaucoup aller voir... Enfin, dès qu'il y a un de ses films, bon, déjà, j'aimais beaucoup le travail qu'il avait de sketch avec son acolyte.
Keegan Michael Key.
Voilà.
Keegan Peele, c'était à l'époque, ouais.
Et exactement, Keegan Peele, qui est vraiment, sont vraiment les deux ensemble. C'est très drôle, c'est-à-dire de comprendre le cinéma de Peele, il faut vraiment voir
oui,
même
ses
sketchs, parce qu'en fait, tout est déjà là.
C'était déjà très mis en scène, très bien écrit, très subtil.
Et puis très tendu, toujours entre le malaise et l'angoisse. Et le rire, du coup, on ne sait plus du tout. À un moment donné, on se dit « oulala ».
Ouais. Et finalement, de sauter le pas comme il a fait avec l'épouvante, voire l'horreur, je pense que la transition a été moins abrupte qu'on a bien voulu le dire, puisque c'est quelque chose que tu retrouves déjà.
Je suis complètement d'accord. Moi, je trouve qu'il y a des sketchs où il y a déjà tout ce qui était déjà dans Get Out, qui est quand même son premier film, pour lequel il remporte quand même l'Oscar. Quand même, on va dire, les récompenses, c'est tant mieux quand c'est pour des bons films. Et puis, bon, des fois, ils sont complètement à côté de la plaque. Donc, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, c'est quand même pas mal d'avoir valorisé.
Bien
ça,
sûr, il avait été très bien reçu.
Et dernièrement, Nope, qui est un blockbuster, qui est un gros film qui est sorti, que je trouve très intéressant comme hommage au cinéma. Et d'ailleurs, il y a plein de films qui rendent des hommages au cinéma qui sont très intéressants.
Absolument. Et pour Nope, c'est ça qui est très intéressant. Tu parlais de code. C'est un film qui, dans ses codes, se rapproche de pas mal de films. Enfin, c'est un film que j'ai trouvé très Spielbergien dans l'esprit. Tu parlais de la famille, c'est quelque chose qui... C'est pas son dernier film à Spielberg qui me contredira, qui est très présent. Et c'est ça qui est, je trouve, passionnant. C'est-à-dire qu'il part de ces codes-là, qui est des choses très codées, très codifiées, pour y apposer sa patte et faire finalement quelque chose qui ne ressemble qu'à lui, en fait, Jordan Peele.
Je pense, oui. Où ça ne ressemble qu'à lui. D'ailleurs, on parlait du dernier film même de Spielberg, de The Fabelmans. C'est très intéressant parce que Spielberg est aujourd'hui très connu comme réalisateur plutôt de films... de famille, mais c'est vrai que quand on le connaît bien, on sait aussi qu'il est passé par beaucoup de films de genre, puisqu'il
Absolument.
A fait Duel, Les Dents de la Mer. Enfin, on sait que Poltergeist, bon, il était clairement
oui,
c'est
bien sûr.
Quasi lui qui l'a fait finalement. Et
même des films de Joe Dante qu'il a beaucoup produit, notamment Gremlins.
Exactement, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce cinéma, et je trouve que dans son dernier film, c'est là. C'est-à-dire, il nous dit le cinéma, c'est une série de catastrophes et moi, j'ai fait que film.
c'est bien vu, je ne l'avais pas lu comme ça. Mais
je trouve que tout est dans le début du film et pour moi, le contrat était rempli à ce moment-là. J'ai vu 10 minutes, j'ai dit, là, tu peux me raconter ce que tu veux. compris, il y a quelque chose du cinéma que je suis d'accord avec toi.
Et alors justement, tu parlais des films sous l'escalier. C'est une rencontre mensuelle. Ça se fait à quel rythme? Quelle est l'actualité autour de ça pour toi en ce moment?
Alors, c'est un film par mois. Il n'y en a pas eu en janvier parce que je n'étais pas j'étais pas en France. Et donc, ça a commencé en 2021. En juin 2021, où j'ai projeté en pellicule, car au Vidéodrome 2, on projette encore en pellicule 16 mm, 35 mm aussi.
70 ou... Non, que
non
ça
pas
35.
Ouais. Non, là, je pense que le projecteur prendrait beaucoup.
C'est un peu plus compliqué. 35, c'est déjà très bien.
Voilà. Et déjà, on fait des énormes bobines, parce qu'il n'y a pas la place d'en mettre deux. Enfin bon, ouais. Donc voilà, c'est une fois par mois. J'avais commencé avec Le Silence des Agneaux. Qui est un film qu'on a pu projeter en 35. En plus, la qualité était vraiment très belle. Enfin, le film était un peu passé, mais ça donnait quelque chose de très intéressant.
Un cachet.
Oui, oui, complètement, puisqu'il y avait un côté un peu orangé, mais du coup, ça réchauffait un peu le film. Enfin, du coup, c'était très étrange. Et donc, ça a été très important pour moi de le montrer, puisque c'est un film que je trouve hyper intéressant. Justement, bon, je voulais un peu rentrer dans le vif du sujet en parlant justement des femmes, mais aussi donc des monstres, et que on a Buffalo Bill, qui est un personnage qui est très particulier, et donc du coup qui m'a permis aussi de dire comment les films ont souvent donné des représentations, mais des représentations négatives et des stigmatisations des personnes, notamment issues de minorités de genre. Et que dans le cas de Buffalo Bill, on est dans un cas assez intéressant, puisqu'en fait, le personnage s'est dit que ce n'est pas une femme trans. Mmh. Et pourtant, il a toujours été traité comme ça quand on parle du film. Et du coup, comment ça s'inscrit dans toute une généalogie en fait, des personnages qui sont vilains et qui nous sont montrés comme étant soit d'une orientation sexuelle minoritaire, soit, de minorité de genre. Mmh. Et du coup, ça m'a permis de faire toute une généalogie du cinéma d'épouvante, justement, où on peut lire, en fait, par exemple, soit dans Le Monstre de Frankenstein, ou en tout cas des espèces de récits qui parlent d'homophobie sans forcément les dénoncer, d'ailleurs. Des fois, ça va justement être là pour renforcer cette stigmatisation, mais où on est quand même dans des panels de personnages. Et pourtant, c'est un film que j'aime beaucoup. Enfin, voilà, donc,
ouais. D'autant qu'on parlait de mise en contexte tout à l'heure. Là, ce que tu dis est très intéressant, puisque c'est vrai que dans les années 50 et 60, il y avait eu quelques années avant la peur du communisme, la peur rouge. Là, c'était ce qu'on appelait la Lavender Scare, c'est-à-dire que c'était pareil, des groupes d'intérêt plutôt motivés par la religion ou en tout cas très conservateurs étaient persuadés que c'était l'homosexualité. Qui représentait, qui était considérée comme une sexualité déviante, qui représentait une menace pour tout un public. Et c'est aussi à cette période-là où il y avait eu, même dans les, par exemple dans les comic books, il y avait eu toute une moralisation faite autour de ça. Alors que quand tu prends des très vieux comics, notamment de Batman et Robin dormaient dans le même lit et c'était pas considéré comme un problème. Donc tout ça, donc effectivement, oui. Tout ça a une histoire, tout ça, et apparaît de façon même, j'allais dire subtile, voire presque inconsciemment dans ces films-là, en fait.
Bah, c'est que ces films, inconsciemment, mais en tout cas ça ressort, c'est ce que je trouve assez intéressant, c'est que tout d'un coup on se retrouve avec par exemple après, et puis plusieurs années plus tard, on a Jennifer's Body qui vient nous décrire une relation lesbienne complètement qui n'est pas positive, qui n'est pas du tout valorisée, et justement comment une relation lesbienne est montrée comme quelque chose de déviant et de mauvais. Et pourtant, je trouve que c'est un film très intéressant qui va aborder, et en même temps très intéressant puisque on va utiliser la plastique de Megan Fox. Enfin, c'est-à-dire, c'est des films, je trouve, aussi qui des fois vont marcher sur leur propre la propre histoire des films d'horreur. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup, même si je pense que toujours dans les films d'horreur, les gens ont toujours fait, comme ça a toujours été un peu un cinéma minoritaire, mm-hmm. un cinéma qui va être fait un
cinéma de marge, en tout cas. Peut-être.
Voilà, de marge et de personnes du coup qui sont fans, ouais. Plutôt. Et ben en fait, on va se retrouver avec des films qui se répondent aussi et qui sont très conscients de leur héritage. Mm. Et ça va être encore plus présent.
Oui.
Et du coup, Jennifer's Body devient un film très très drôle, vraiment qui est grotesque à plein d'endroits, et pourtant avec un super, avec Megan Fox comme rarement on a pu voir cette actrice. Comment on peut avoir de la compassion en fait pour autant pour son personnage que pour l'actrice, puisque l'actrice à ce moment-là était très critiquée, notamment pour sa plastique, pour justement les rôles de pain bêche qu'elle faisait, alors que ce n'est pas elle qui avait les rôles de... Enfin, je veux dire, ce n'est pas elle qui choisissait ses rôles comme
qui
ça.
Qui les crée, ouais. Et d'autant que tu parlais des films qui sont conscients de leur propre histoire, notamment des films d'horreur. Et là, on est en plein chez Wes Craven, c'est-à-dire que toute l'histoire de la saga Scream, alors les derniers ont été, dont le dernier qui va bientôt sortir, ont été faits. Il est plus là pour les faire, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est des films postmodernes qui commentent, qui critiquent les tendances récurrentes du film d'horreur, du film d'épouvante. Donc finalement, c'est un genre qui parfois se met lui-même en scène aussi, quoi.
Bah, les slashers, beaucoup, je pense.
Mmh. Mais c'est ce qu'il avait fait déjà, il me semble, avec un des films sur Freddy était, ouais, déjà, il y avait déjà
c'était
un film.
Le dernier film,
voilà.
En fait, le dernier film de Freddy, le film 7, s'appelait même Wes Craven Last Nightmare en anglais. C'est-à-dire, c'est son nom. Le titre du film pour parler de Freddy, c'est Wes Craven.
Le dernier cauchemar
de Wes Craven. C'est-à-dire, c'est comme si ça allait être un documentaire. Et finalement, non, c'est Craven qui joue son propre rôle. C'est Robert Englund qui joue son propre rôle. Et Nancy Thompson qui est Heather Landkamp. Donc, ils vont jouer chacun leur propre rôle tout en jouant, tout en étant hantés par les personnages qu'ils ont
le
incarnés
côté métafictionnel
dans le premier film. Et Craven en profite pour avec ses gros sabots. Hein. Moi, c'est ça que j'aime bien chez Craven, c'est que des fois, c'est pas subtil, c'est même un peu cringe à écouter, parce que des fois, il veut tellement dire ce qu'il dit, c'est très littéral. Où en fait, Wes Craven nous dit que bah, l'importance pour lui, c'est que en fait, raconter les histoires, c'est ce qui enferme les mythes, c'est ce qui enferme les. En fait, créer des mythes, c'est ce qui permet en fait de protéger, finalement, de nous protéger de la violence et et du monde qui nous entoure. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu beau de la part de ce cinéaste. Enfin, ce cinéaste est assez touchant, justement, dès qu'il parle un peu de ce rapport-là. Je pense que c'était quelqu'un qui était très affecté par le monde, tout en étant très doux quand on le voit en entretien. Enfin, c'est un personnage qui a l'air très doux. Mais dès qu'il parle de la violence que le monde fait aux individus, notamment aux enfants, il parle beaucoup de la violence des enfants, en fait, c'est quelqu'un qui a l'air d'être très affecté. Et donc, voir les slashers sous cette aune-là, qui mettent quand même plutôt en scène des adolescents qui se font trucider, oui. Je trouve que c'est pas anodin. Alors que c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé de la violence faite aux enfants, et notamment les Screams parlent que de ça, en fait, oui. Du trauma, de se remettre... voilà. Et puis, le secret. Le secret, c'est très présent aussi. Mais le secret, ça, tous les films d'horreur, c'est... En particulier, les slashers, c'est toujours un secret. On a, par exemple... Bon, moi, je l'aime pas trop ce film, mais souviens-toi l'été dernier. Enfin, c'est toujours lié à un secret que l'angoisse, le retour de bâton, quoi. Le retour, en fait, et c'est là que ça emprunte du coup à la littérature gothique avec le retour du refoulé.
Oui, bien sûr.
Qui revient un peu toujours.
Oui, d'autant que c'est vrai que là encore, il y a beaucoup de ces films-là qui peuvent être interprétés comme une métaphore de l'adolescence. Donc, puisque c'est effectivement une période où on se pose, tu parlais du secret, du refoulé, où on se pose beaucoup de questions, on traverse aussi des mutations physiologiques, physiques, donc tout ça peut transparaître aussi. Il y avait notamment un film qui s'appelait It Follows, et c'est pareil, c'est un film qui peut être interprété où en fait le monstre du film est à l'état de presque atteint un état d'abstraction tel que c'est quasiment ça peut être lu là aussi comme une métaphore du monstre en tant que maladie sexuellement transmissible, en fait.
Et c'est comme ça que ça avait été beaucoup lu, et effectivement c'était assez présent puisqu'en fait, finalement, pour s'en débarrasser, il faut le refiler à quelqu'un d'autre. Et du coup, avoir du sexe sans protection. Et là, ça allait en plus sur les terrains du film d'horreur et du slasher très classique américain, c'est-à-dire qui a du sexe est puni. Voilà. Ça fait partie d'un des codes. Alors, les auteurs vont jouer plus ou moins avec ce code-là. Mais en tout cas, ça fait partie d'un des codes. Et d'ailleurs, c'est présent dans Scream. Si tu couches,
c'est les règles tacites.
Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, c'est qu'en fait, elle ne meurt. Tout l'intérêt de Sidney Prescott, c'est justement, elle survit alors qu'elle vient tout juste d'avoir du sexe, quoi. Donc, c'est ça. Et dans It Follows, oui, il y avait ça. Après, dans It Follows, il y avait autre chose, c'est qu'en fait, quand on regarde le générique, il me semble quand on regarde le générique de It Follows, il me semble qu'en fait, il y a certains personnages qui sont présentés comme étant des ancêtres de la jeune fille, de l'héroïne. Qui la suivent, et donc du coup il y a quelque chose d'autre,
il y a plusieurs niveaux de lecture,
c'est
peut-être.
Pas dit dans le film, mais qu'en fait on pourrait avoir un autre niveau de lecture puisque ce serait son grand-père ou des choses comme ça, et donc serait dans quelque chose finalement de plus viscéral, plus primaire, puisqu'on reviendrait à la famille.
C'est ce que j'allais dire, voilà. La boucle est bouclée, voilà. Et alors donc toi tu disais que tu l'es, alors les séances que tu présentes ont lieu au Vidéodrome 2, qui est un lieu un peu alternatif, je pense, on peut le dire comme ça, à Marseille, où tu ne travailles plus en tant que salarié, mais toujours en tant que programmatrice. Tu vas nous parler après de ce que tu fais depuis que tu n'es plus au Vidéodrome. C'est un lieu justement qui... Comment est-ce que ça fonctionne ? Puisque c'est un fonctionnement assez particulier.
Oui, c'est un fonctionnement particulier puisque tout le monde travaille au bar. Toutes les personnes étant salariées là-bas ont un temps dédié au bar. Le bar étant une SCOP et le cinéma, lui, est une association. Donc avec des adhérents. L'idée, c'est que justement, comme un ciné-club, en fait, tout le monde peut s'emparer de l'outil cinéma. Avec quand même, il faut envoyer quand même un mail, etc., avec un cadre. Et c'est l'équipe qui choisit les programmations, qui gère la coordination de programmation extérieure, où avec, on accueille des cinémas, des partenariats, mais aussi des cartes blanches et de plus en plus des instances ciné-club, d'ailleurs, qui sont dits comme tels. D'ailleurs, là, on va avoir un... on va pouvoir montrer un des films de Jocelyne Saab, Le Sahara n'est pas à vendre, une cinéaste donc libanaise qui est décédée en 2019, je crois. En tout cas, il n'y a pas très longtemps. Et on va pouvoir le projeter en 16 mm. Et c'est un film justement qui a été restauré par, par une association, en tout cas, qui met en avant ces films. D'accord. Et ça, c'est dans le cadre d'un ciné-club qui s'est monté. Il y a d'autres, enfin voilà, il y a des personnes extérieures qui sont invitées à programmer, à avoir des cartes blanches. Pendant que j'y travaillais, j'ai pu programmer avec la réalisatrice documentariste Fatima Sissani. Mm-hmm. On a pu montrer des films de Safi Faye, qui malheureusement est décédée il y a très peu de temps. Une cinéaste du coup de qui est présentée comme et qui revendiquait ce terme de première cinéaste noire africaine. Mmh. Et donc on avait pu montrer Kadou Bekat et Mossan, qui sont deux films magnifiques, enfin, que je recommande quand même visionnage, et malheureusement elle nous a quittés il n'y a pas longtemps. Mmh. Donc je pense que bientôt il y aura une ressortie de ces films. Et
une rétrospective.
Voilà, une rétrospective. Mmh. Je pense que d'ici un an ou deux, ça devrait se faire.
Et justement, tu disais, tu expliquais le mode de fonctionnement. C'est un lieu qui, comme on le disait, est alternatif, qui se pose comme une autre voie par rapport au multiplex, par rapport, on disait, à des cinémas qui peuvent être un petit peu plus, comment dire, dépendants de ce qui, des aléas et des modes et du marché. Est-ce que justement ça c'est un lieu qui rencontre son public? Tu parlais, tu disais que d'un film à l'autre dans le cadre des films sous l'escalier, pardon, tu arrivais à fidéliser. Est-ce que justement vous sentez que les gens sont friands de ça, c'est-à-dire à la fois de programmation alternative et même, j'allais dire, de consommation alternative, puisqu'aujourd'hui, ça passe au-delà du cinéma, en salle, ça passe également beaucoup par le streaming et les plateformes. Donc, vous sentez cet engouement quand même ou cette envie du public?
Oui, bien sûr. Ouais, ouais, complètement. Bah, le Vidéodrome, dès la réouverture après le confinement, on a très vite retrouvé beaucoup une forte fréquentation. Je pense aussi que ça joue le fait que le Vidéodrome 2 pratique donc le prix libre. C'est-à-dire qu'il y a une adhésion à payer pour l'année. Puis ensuite, par contre, chaque séance est à prix libre. Hors partenariat, là, ce n'est pas nous qui fixons les prix. Et donc oui, on a eu l'année dernière. Maintenant, ça s'est arrangé, heureusement. Mais l'année dernière, c'est vrai qu'il y avait une baisse énorme de fréquentation des salles. Et c'est vrai que, bah, pour le coup, le Vidéodrome, on ne l'a pas vu, ça, parce qu'on avait vraiment beaucoup de monde qui venait voir les films. Mmh. Je pense qu'effectivement, c'est dû à une programmation éclectique. Effectivement, avec les plateformes qui se sont énormément développées. En fait, je pense que c'était un phénomène qui arrivait avant. C'est juste que le confinement a accéléré.
Oui, ça a été le dernier clou dans le cercueil, pourrait dire. Mais Netflix n'a pas attendu le Covid pour.
Pas du tout, bien sûr. Plein de gens.
C'est des consommations qui sont bien enracinées maintenant depuis une petite dizaine d'années, on va dire.
Je pense que par contre, moi c'est vraiment une idée que j'ai, je pense qu'il y a beaucoup de, comme nous, comme moi par exemple, qui aimais regarder mes films sur mes cassettes, j'aimais ça, mais par contre, j'ai toujours aimé aussi aller au cinéma en parallèle. Oui. Et donc, je pense que parce que, encore une fois, le cinéma, ce n'est pas la même chose, puisque c'est c'est un peu les banalités, mais c'est réellement une expérience collective. D'ailleurs, des films que moi, je propose à des films sous l'escalier, quand je reste dans la salle pour revoir le film, des fois, les gens, ils ne vont pas rire au même endroit que moi.
C'est ce que j'allais te dire, oui.
Mais c'est hyper intéressant.
C'est révélateur, oui.
Ou alors, des fois, je vais dire, je vous préviens, le film, il est un peu dur, etc. Et finalement, le public est très ouvert au film. Enfin, ça ne va pas être mon même vécu.
Oui, mais ça, justement, ça peut te confronter toi-même à ton expérience par rapport au film, et de la même façon.
Exactement,
que, tu vois, on parlait de It Follows à l'instant, tu peux dire, moi, j'adorais, mais je ne l'ai pas lu du tout comme toi. Et il y a des films d'autant qui prêtent d'autant plus le flanc à diverses interprétations, sans aller jusqu'à 2001, qui a peut-être autant de signification que de visionnage. Mais oui, c'est vrai que l'expérience en salle, au-delà de bénéficier de, comment dire, d'une qualité technique et visuelle difficilement atteignable quand on est chez soi. Il y a ce côté, oui, cette expérience collective viscérale et qui peut même être cathartique par moment, oui.
C'est ça, et je pense, moi personnellement, je suis très confiante que les personnes sont très intéressées par les deux médiums, deux, trois, quatre, puisqu'en fait, c'est juste une manière de voir des films, de les rencontrer, et parfois d'avoir vu un film il y a 10 ans, tout seul, chez soi, et finalement, quand le cinéma à côté de chez soi, en général, va le passer, ben, on se dit, ah bah, moi, je vais y aller, dire ça, je veux le voir
bien
au
sûr.
Cinéma. Que ce soit que ce soit une version remasterisée ou pas, d'ailleurs. Hein, c'est beaucoup mis en avant. En ce moment, il y a un énorme... je pense aussi que les boîtes de distribution l'ont bien compris, puisque je constate quand même qu'il y a un énorme travail en ce moment de ressorties, ouais. De classiques.
Beaucoup de films en 4K ou...
Exactement, ouais, qui sortent de plus en plus. Et où je pense que aussi on a remarqué qu'en fait, ça faisait venir les personnes au cinéma. Là, par exemple, là, comme ça, je vais dire The Host de Bong Joon-ho, vient de ressortir. Moi, je l'avais passé en pellicule au rendez-vous. Et du coup, je trouve ça fou qu'ils ressortent et du coup, les gens vont le voir de nouveau, vont redécouvrir ce film qui était un film que les gens citaient peu finalement en parlant de Bong Joon-ho, en tout cas plus comme une blague,
bien sûr.
Alors que finalement, c'est un film beaucoup plus profond que.
Un film très important, bien sûr.
Moi, c'est le film qui précède Parasite, c'est-à-dire il y a ce film-là et après il y a Parasite.
Oui, et pour la petite histoire, j'avais même une fois, je parlais de ce film-là avec un ami et en fait. Pas dans ce que les films disent, mais dans les titres, en fait, il inversait The Host et Parasite. Et en fait, The Host pourrait presque s'appeler Parasite et Parasite pourrait s'appeler The Host.
Oui.
Donc,
finalement,
lui, il avait fait ça, c'était une erreur de bonne foi et ça m'avait fait réfléchir sur les. Bon, évidemment, c'est le même cinéaste, donc il y a nécessairement des connexions, mais sur une connexion peut-être invisible mais relativement profonde qui pouvait exister entre les deux.
Complètement d'accord. Bah, d'ailleurs, en plus, je m'étais pas fait la réflexion, mais oui, en fait, je veux dire, c'est deux films qui parlent vraiment de la classe prolétaire au travers
d'une
famille,
exactement.
Et qui vont. C'est juste que Parasite va aller plus loin dans la mise en parallèle des classes
dialectique,
entre classes,
on dirait presque,
exactement,
bien sûr,
plus dialectique. Là où The Host va beaucoup plus s'inspirer du kaiju movie, alors donc film de monstres japonais, et justement, qui en plus est intéressant qu'un Coréen s'empare du kaiju en sachant qu'on connaît l'histoire de la, si on connaît l'histoire de la Corée et du Japon, c'est encore une fois plein de couches comme ça, ou de choses à dire. Mais je suis complètement d'accord. Je m'étais pas fait la réflexion, mais oui.
Rien qu'au niveau du titre, ça fonctionne. Des titres. Et ouais. Alors, au-delà du vidéodrome et des séances mensuelles que tu proposes avec des films sous l'escalier, ton actualité également, ça correspond à quoi?
Alors là, j'ai rejoint le comité de programmation sous l'impulsion d'une amie donc, qui y travaille, elle, Ambre Vaux, que j'ai rencontrée au Vidéodrome. Elle a monté aussi, elle a co-monté avec plusieurs autres personnes le festival Les Mains Gauches, un festival de courts-métrages queer et féministe qui a lieu en septembre chaque année au Vidéodrome. Et elle fait donc partie elle est programmatrice, elle, pour le festival Film Femmes Méditerranée. Donc c'est un festival c'est une association qui existe depuis 2006.
D'accord.
Et donc qui est là pour mettre en valeur donc les réalisatrices issues du berceau méditerranéen, dans une définition parfois très très large. Des fois, on fait des petites circonvolutions pour essayer de programmer des films qui sont appréciés. Donc, je suis très contente de les avoir rejoints. Et là, on est en train de travailler à la prochaine programmation qui aura lieu en octobre ou novembre prochain.
À Marseille ?
À Marseille.
Oui. Dans plusieurs lieux ou dans...
Oui, dans plusieurs lieux. Alors, d'accord. En général, les festivals à Marseille, ça va se passer donc à les variétés. Mmh. Donc,
sur la Canebière.
Il va y avoir le Vidéodrome 2.
Sur la plaine.
Des fois, est-ce qu'il y a des projections au Théâtre de l'Œuvre? Non, je ne crois pas. Maintenant, comme il y a le grand cinéplex, l'Arplex, je sais que
sur la Canebière
des
également.
Fois, il y a certains... Ouais. Tout à fait, sur la Canebière aussi. Et il y a un autre cinéma, le Gyptis aussi, qui est un cinéma qui se trouve dans le quartier de la Belle de Mai, qui est un quartier très populaire de Marseille. Donc il y a un cinéma qui essaye aussi un peu qui arrive à créer des instants cinéma très très intéressants Enfin, moi, j'aime beaucoup y aller, qui invite des personnes. D'ailleurs, quand je suis arrivée à Marseille, bah, tiens, c'est intéressant. Quand je suis arrivée à Marseille, j'ai fait partie du ciné-club du cinéma du Gyptis.
Du Gyptis, d'accord. Voilà.
Donc, j'avais déjà en vrai un pied dedans quoi, en arrivant à Marseille.
Alors, Myriam, on arrive malheureusement bientôt au terme de l'émission. On aurait pu continuer, je n'en doute pas, à discuter de cinéma pendant très longtemps. Le plus dur, c'est de s'arrêter. Je vais te poser la question que je pose à toutes et tous mes invités en fin d'émission. Est-ce que tu pourrais... Alors, on a beaucoup parlé de cinéma, mais ça peut être évidemment autre chose qu'un film. Est-ce que tu pourrais partager avec nous une œuvre qui te tient particulièrement à cœur et que tu voudrais faire découvrir ? Je précise qu'il y a beaucoup de choses dont on a parlé, que ce soit les films, le dernier Spielberg, que ce soit les films de Jordan Peele, que ce soit L'Échiquier du Vent ou The Host, évidemment, c'est à voir. On ne va pas se répéter.
Effectivement. Je vais redire le même œuvre que la dernière fois. Ce serait de parler de Les Dépossédés, en fait, donc œuvre de science-fiction de Ursula K. Le Guin, qui est un livre donc, de SF qui va nous parler d'anarchie. Et d'utopie anarchiste et comment l'utopie anarchiste est difficile aussi. C'est un challenge, c'est du travail. Mais si on compare avec une société plus libérale, peut-être que ça vaut un peu la peine d'être dans un rapport plus sobre. Ça va raconter l'histoire d'un chercheur qui vient d'une planète, d'une ancienne colonie. Qui du coup a installé l'anarchie en système de société et qui va lui à la rencontre on va dire de la première planète qui avait d'abord colonisé et en arrivant sur cette planète qui est une planète qui ressemble un peu plus dont le système plus inégalitaire ressemble plus mais du coup plus riche enfin plus joyeux en fait aussi on nous montre puisque plus de couleurs puis le climat est beaucoup plus clément, il y a beaucoup plus aussi de faune et de flore, donc ça donne envie. Mais finalement, il y a aussi des inégalités, et comment est-ce que ce chercheur, en fait, à la recherche de lui-même, à la recherche de réponses, se retrouve un peu confronté à la difficulté de sa propre société, mais en tout cas, je trouve que ça laisse vraiment à penser, et il y a quelque chose de très lumineux dans ce livre, dans ce qu'il donne de possible, parce que c'est quand même plutôt rare. Hein, on dit souvent que l'ASF s'est emparée de l'anarchie comme système, et plutôt que de dépeindre, par exemple, des sociétés soit dystopiques, soit utopiques communistes. Et là, on est vraiment sur de l'anarchie. Et, donc et en même temps, il y a tellement de descriptions. Il y a quelque chose de très matériel où, en fait, on se plaît à essayer d'imaginer une société sans l'idéaliser, par contre. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de pression. C'est quoi vivre en communauté et donc de ne pas penser en individuel ? C'est-à-dire que le « nous » précède le « je », et que ce n'est pas forcément évident pour tous les individus, notamment, par exemple, pour ce chercheur, d'où ses recherches. C'est un livre assez beau. Voilà, je le laisse
très riche.
J'en dirai pas plus.
Merci beaucoup. Merci, Myriam, d'être venue nous parler de ton métier de programmatrice cinéma et d'être venue parler de cinéma, simplement. C'est toujours un plaisir.
Merci, Robin, pour
celles et ceux qui sont à Marseille, qui habitent, qui sont de passage, le TGV n'est pas très cher. Même ceux qui habitent à Paris, allez-y, faites un tour. Au Vidéodrome 2, faites un tour voir tout ce que propose l'offre cinéma à Marseille. Il y a plein de choses intéressantes. Très bonne soirée à tous et à tous.